La marche par l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais bien donc rappeler peut-être l'ultime marche, il y en a peut-être d'autres, c'est la marche dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et on va lire 5 versets dans la parole de Dieu, à travers lesquels, j'espère, le Seigneur pourra nous encourager et fortifier notre foi. C'est le but, c'est l'objectif de la parole de Dieu. Un des objectifs de la parole de Dieu, c'est de fortifier notre foi, de nous encourager. Jérémie 10, verset 10, qui va s'afficher. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. L'Éternel est Dieu en vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Le deuxième verset que je vous invite à lire se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Et là, c'est Jésus qui parle et qui dit ce verset très bien connu par ailleurs. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Je suis le chemin, la vérité. Jésus est la vérité. Et puis un autre verset, toujours dans l'évangile de Jean, dans le même chapitre, au verset 17. Verset 17, nous lisons. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. Et mais l'avant-dernier verset, Jean 17, 17, un autre verset très bien connu aussi. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dieu est vérité, Jésus est vérité, le Saint-Esprit est vérité, la parole de Dieu est vérité. Et puis un dernier verset, dans la troisième lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 1er et au verset 4. Et là, l'apôtre Jean écrit, donc, troisième épître de Jean, chapitre 1er, verset, il n'y a qu'un chapitre, de toute façon, verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marche dans la vérité. » Et c'est une appellation. L'apôtre Jean appelle souvent ses destinataires, ses lecteurs, enfants ou bien petits-enfants. C'est une marque d'affection qu'il veut leur porter. Et il dit ici, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors la vérité, on peut la définir, c'est ce qui est conforme à la réalité, ou ce qui est conforme aux faits, ce qui correspond à la réalité, ce qui correspond aux faits. Cependant, la vérité du monde peut parfois être relative ou bien subjective. Ainsi, par exemple, les amateurs de football comprendront peut-être mieux, davantage que les autres, avant qu'on utilise la line technology, donc une ligne virtuelle qui est tracée par l'ordinateur, par les découvertes informatiques, eh bien l'arbitre devait juger par lui-même si un joueur était en position hors-jeu ou pas. Et même s'il était convaincu de ce que son jugement était véritable, il pouvait néanmoins se tromper au grand dam des supporters et des joueurs de l'équipe qui étaient lésé. L'être humain peut être convaincu de la vérité d'une croyance, de la vérité d'une religion, de la vérité d'une théorie, sans pour autant que celle-ci ne soit vraie, authentique, véritable. Dieu se définit comme étant la vérité absolue. Comme on l'appelle le Dieu très saint, comme on l'appelle le Dieu tout-puissant, il est aussi le Dieu très vrai, ou bien le véritable, comme nous le rappelle 1 Jean 1, verset 1. La vérité de Dieu fait partie de ses attributs, au même titre que tous ses autres qualificatifs, que tous ses autres caractéristiques. Dieu est, dans son être, dans son essence même, vérité. Dieu est vérité. Augustin, donc le père de l'Église, Augustin d'Hippone, a écrit ceci d'intéressant: Dieu est la source de toute vérité. Dieu est la source de toute vérité. Pas de mensonge, pas de tromperie, pas de demi-vérité avec Dieu. Il est le seul vrai Dieu, en contraste avec toutes ces idoles, tous ces faux dieux qui sont faits de bois, de fer, de pierre, ces Baals, ces Astartés, ces Molochs que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne s'intéressent pas à la nature humaine. En contraste, Dieu est le Dieu de vérité. Jérémie 10, verset 10, que nous avons lu en introduction, affirme que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et sous la Nouvelle Alliance, eh bien, les faux dieux, ils sont toujours là. Oh, ils n'ont plus la même forme grossière qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, quoique dans certaines contrées, on adore encore certaines idoles. Mais ils prennent une autre forme. On les nomme ainsi le Dieu humaniste. Et si vous vous souvenez bien de la prédication de la semaine dernière, nous avons eu droit à une description assez détaillée que le pasteur Mehdi nous a apportée concernant la doctrine humaniste. L'homme se place à la place de Dieu. L'homme est le centre. Il met de côté Dieu. C'est en quelque sorte, c'est un rappel, hein, sa propre conscience qui détermine ce qui est bien de ce qui est mal. Il balaye l'idée de Dieu finalement. Et puis il y a aussi le Dieu alcool. Il y en a qui adorent la bouteille. Il y a le Dieu drogue. Il y a le Dieu débauche, impureté. Et l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens chapitre 3 verset 19, on peut l'afficher là derrière moi si tu veux bien, Olivier ou Alexandre. Philippiens 3, verset 19, écrit: Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et littéralement, c'est pas l'estomac qu'ils ont pour Dieu, mais c'est le bas-ventre. Ils ont pour Dieu leur bas-ventre. Alors, il ne faut pas faire un dessin de ce qu'est le bas-ventre, n'est-ce pas? Eh bien, le Dieu sexe domine également certaines personnes, et ce Dieu sexe, comme d'autres passions par ailleurs, peut également prendre la place de Dieu. Les faux dieux, les dieux de mensonge, sont toujours présents aujourd'hui, sont toujours d'actualité de nos jours. Dieu est vérité. Dieu est vérité. Ce qu'il est vrai. Ce qu'il dit, ce qu'il prononce est vrai. Ce qu'il fait, ce qu'il réalise, ce qu'il accomplit est vrai. Et comme nous l'avons rappelé tout à l'heure en Jean 4, aussi Jésus est vérité. C'est lui qui révèle le Dieu de vérité. Il est l'incarnation de la vérité absolue. Dans son prologue, Jean, au chapitre 1, donc, le décrit comme étant Jésus plein de grâce et de vérité. Jésus est vérité. Jésus ne dit pas que la vérité se trouve dans une religion ou dans un ensemble de rituels. Non, il dit « Je suis la vérité ». La vérité est donc une personne. La vérité est une personne et un autre écrivain, journaliste, écrivain chrétien, André Frossard, peut-être que vous le connaissez, a écrit ceci « Pour le chrétien, la vérité est un être vivant, le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui de Christ. » Pour le chrétien, la vérité est un être vivant, le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui de Jésus, celui de Christ. La vérité est une personne. Jésus est venu sur cette terre pour apporter la vérité de Dieu, pour apporter l'évangile de vérité. Beaucoup de leaders religieux ont cherché la vérité, ont enseigné la vérité, ont essayé de montrer la voie de la vérité, ont été prophètes de la vérité. Mais Jésus est venu et il a dit « Je suis la vérité ». C'est quelque chose de révolutionnaire. Personne n'a jamais osé dire ça. Et si Jésus a affirmé qu'il est la vérité, c'est parce qu'il est réellement la vérité incarnée, la vérité divine. Et puis, l'Esprit Saint aussi est appelé l'Esprit de vérité. Jean 15, verset 26. L'Esprit de vérité qui nous façonne, qui nous transforme pour nous rendre davantage conformes à la vérité absolue, au Dieu de vérité. Et puis, il nous restaure de l'intérieur, il nous fortifie, il nous dynamise, il nous donne la victoire sur le péché, il nous donne la victoire sur le mal. C'est lui qui nous convainc de péché, nous rappelle la parole dans Jean 16. C'est lui qui nous convainc de péché, il produit en nous des fruits véritables, authentiques, un amour véritable, une joie véritable, une paix véritable, un altruisme véritable. Il produit en nous du fruit. L'Esprit de vérité nous aide à prier. Il intercède lui-même pour nous et il nous conduit aussi dans la lecture de la parole de Dieu pour nous donner l'intelligence de comprendre la pensée de Dieu. L'Esprit de vie et de vérité. L'Esprit de vérité. Troisièmement, la parole écrite et inspirée est aussi la vérité. Ta parole est la vérité, comme nous l'avons appelé Jean 17, 17. Tout ce que rapporte Dieu dans les Écritures est vrai. À une époque où les Grecs, pensaient que la terre était portée par le géant Atlas, un dieu mythologique, et que les hindous pensaient que la terre reposait sur le dos, sur la carapace d'une tortue qui nageait dans un grand océan, eh bien, la Bible affirmait quant à elle que la terre était suspendue dans l'espace. Et c'est le livre de Job qui affirme cela. Le patriarche Job écrit au chapitre 26, verset, tu n'es pas obligé de l'afficher, je vais simplement citer la référence et le verset. Job, chapitre 26, verset 7, il suspend la terre dans le néant. La Bible, la parole de Dieu, annonce longtemps même à l'avance ce que l'astronomie décrira vers le XVIIe siècle. Longtemps à l'avance, la parole de Dieu affirmait déjà la vérité que les astronomes ont découvert seulement bien, bien, bien plus tard. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Même chose pour le noyau de la terre, le magma en feu. Eh bien, bien avant que les géophysiciens ne découvrent la réalité du centre de la Terre, le livre de Job, toujours lui, annonçait longtemps à l'avance que le noyau de la Terre était composé de lacs de feu. Job au chapitre 28, verset 5. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Même chose quant à la mention que la terre est ronde. Et bien avant que Pythagore et d'autres philosophes comme Aristote ou Platon, et bien avant Galilée, et bien la Bible affirmait que la terre avait la forme d'une sphère, d'un cercle. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 21 et 22, on peut l'afficher si tu veux là, Ésaïe 40, versets 21 et 22, nous dit, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ?» Peut-être que tu peux mettre le suivant. « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » C'est lui, Dieu, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et la version Martin, la version, comment il s'appelle encore celui-là, la Bible Martin de 1744, eh bien, elle rend encore mieux cette traduction en écrivant « C'est lui, Dieu, qui est assis sur le globe de la terre. » La terre est ronde, mais la Bible annonce déjà, l'avait déjà annoncé bien avant que les êtres humains ne le découvrent. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Même chose avec le cycle de l'eau. Avant qu'on ne le découvre, pas à travers des expériences au XVIe et au XVIIe siècle. Donc, évaporation, condensation, précipitation, la Bible l'avait déjà annoncé longtemps à l'avance. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu reste, est la vérité, est la vérité. Tout ce que la Bible dit est vrai. Tout ce que la Bible révèle est authentique parce que elle est inspirée par le Dieu de vérité. La Bible déclare que, et on l'a rappelé ce matin, que le Dieu est créateur, c'est la vérité. La Bible déclare que Sarah a enfanté à 90 ans, c'est la vérité. La Bible déclare que Dieu s'est révélé à Moïse à travers un buisson qui était en flamme mais qui ne se consumait pas. C'est la vérité. La Bible déclare que le pays d'Égypte a été frappé par 10 plaies. C'est la vérité. La Bible déclare que le peuple d'Israël a traversé à sec la mer Rouge. Les eaux se sont fendues. La mer s'est ouverte. C'est encore la vérité. C'est encore la vérité. La Bible affirme que David a terrassé un géant qui mesurait près de 3 mètres, 2 mètres 90 environ. C'est la vérité. Qu'un ange a fermé la gueule des lions, les empêchant de dévorer Daniel quand il était enfermé dans la fosse, c'est encore la vérité. Que Jonas a été avalé par un grand poisson, c'est toujours la vérité. Que les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont réalisées avec exactitude à la lettre, c'est encore la vérité. Que l'homme est pécheur et voué aux peines éternelles, c'est aussi la vérité. Que Dieu a réglé le problème du mal en envoyant Jésus sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité, pour notre salut et pour nous offrir la vie éternelle, c'est toujours la vérité. Et que Jésus est vivant au siècle des siècles, et qu'un jour il reviendra pour prendre son Église, ceux qui lui appartiennent, c'est la vérité. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un mythe, c'est l'authenticité de la parole de Dieu. Chaque lettre de la Bible est vraie. Chaque mot de la parole de Dieu est authentique et vérité. Ces récits sont, comme nous venons de le rappeler rapidement, les récits de la parole de Dieu sont vérité. La doctrine et la morale qui se dégagent de la parole de Dieu, que l'on trouve dans la parole de Dieu, le sont tout autant. Ils sont vérité. L'objectif du diable, c'est de semer le doute. c'est de remettre en question, c'est de falsifier, c'est de tromper. Et on voit ça déjà, enfin, on le voit entre autres en Matthieu chapitre 4 qu'on connaît, n'est-ce pas, l'épisode lié à la tentation de Jésus. Le diable va même jusqu'à citer des versets de la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de sectes aussi qui citent des versets de la parole de Dieu, entre parenthèses. Mais il les cite hors contexte ou de façon incomplète. Et Jésus doit le recadrer à trois reprises en disant, en affirmant, « Il est écrit, et ce qui est écrit est la seule vérité. » L'apôtre Paul aussi, hein, dans ses épîtres, l'apôtre Paul, « Combien de fois ne doit-il pas avertir, informer ses lecteurs du danger, de la séduction et de l'influence des faux docteurs qui sont là et qui nient la divinité de Jésus-Christ. » Pierre, lui, écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 2, verset 1er, donc les deux premiers versets du chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre 2, verset 1er et verset 2, il écrit ceci, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine subite. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera bafouée, calomniée à cause d'eux, à cause d'eux. Et aujourd'hui encore, combien de sectes et même des religions ne reconnaissent pas la divinité, la nature divine de Jésus-Christ? Combien de sectes et de religions mettent en doute la divinité de Jésus-Christ? Comme le souligne Romains chapitre 1er, hein, ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge. Le diable est le menteur. Jésus, Dieu est la vérité. Et le diable va tout mettre en œuvre pour mettre en doute la vérité de Dieu. Et pourtant, Jésus insiste à de nombreuses reprises sur la véracité, l'inspiration de sa parole. L'expression « en vérité, je vous le dis » ou « je vous le dis en vérité » revient 85 fois dans les quatre évangiles. Jésus veut insister sur le fait que sa parole est véritablement la vérité, est la vérité. Alors, celui qui marche dans la vérité, il croit fermement à la doctrine de Christ. Celui qui marche dans la vérité adopte aussi un mode de vie, le mode de vie de la vérité, qui est basé, comme nous le mentionnions il y a un instant, sur l'éthique chrétienne, sur la morale chrétienne. Mais voilà, le diable, encore une fois, il fourre son nez encore là pour essayer de déstabiliser la vérité, pour essayer de troubler la vérité. Le diable, qui est appelé, comme nous le savons, le père du mensonge, essaye aussi, sur le plan moral, de nous détourner du plan de Dieu. Il sème le doute, il trompe, il ment pour séduire, pour égarer, pour perdre. On se souvient des paroles du serpent ancien dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'était sûr que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu a dit? Il sème le doute. Il remet en question la vérité de la parole de Dieu. Oh, mais dis, tu sais, c'était pour avant ça. Maintenant, il faut vivre notre époque. Il faut s'adapter. C'est révolu ces choses-là. Et puis personne ne le verra. personne ne le verra. Il n'y a que toi qui le sauras. Et puis, tout le monde le fait. Ben alors, toi aussi, fais-le. Il met en doute, il relativise, il adapte, il fausse la parole de Dieu. Il tronque la parole de Dieu. Et pourtant, la vérité de Dieu est claire. La vérité de Dieu est claire. Je marche dans la vérité, bien évidemment. Je rappelle ici toute une série d'éléments pratiques à notre marche dans la vérité. Je marche dans la vérité quand je dis la vérité à mon prochain. Et on ne va pas lire les versets qui correspondent avec ce que je rappelle, parce que ça prendrait peut-être davantage de temps. Mais je marche dans la vérité lorsque je dis la vérité à mon prochain. Je marche dans la vérité quand je ne parle pas en mal sur le dos de mon frère ou de ma sœur. Oh, t'arrives, hein ? La médisance, les mauvais propos, pire, la calomnie. Je ne marche pas dans la vérité si je parle sur le dos, méchamment sur le dos de mon frère ou de ma sœur. Je marche dans la vérité lorsque je m'abstiens de la débauche ou de l'impureté. Je marche dans la vérité lorsque je reste fidèle à mon conjoint. Je marche dans la vérité quand j'aime mon prochain, pas seulement en parole, mais en action, en acte. Je marche dans la vérité quand je ne fais pas preuve d'orgueil, quand je ne fais pas preuve de jalousie, quand je n'ai pas un esprit de rivalité, quand je ne convoite pas. Alors je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité quand j'adore Dieu. Je marche dans la vérité lorsque je suis en communion avec Dieu et avec mes frères et sœurs. Je marche dans la communion, je marche dans la vérité, pardon, quand je porte du fruit, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, Jean 15, verset 8. Je marche dans la vérité quand je porte du fruit. Je marche dans la vérité lorsque j'accorde mon pardon à quelqu'un qui me le demande. Je marche dans la vérité quand je confesse mes fautes devant Dieu, sachant qu'il est fidèle et juste pour tout me pardonner, pour pardonner mes iniquités. Je marche dans la vérité lorsque je proclame l'évangile de vérité, lorsque je suis témoin de la vérité, lorsque je partage la vérité. Je marche dans la vérité. Et c'est l'apôtre qui écrit ça dans 1 Timothée 2, verset 4. Tu peux l'afficher si tu veux, Olivier. 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 4. Sous l'inspiration de l'Esprit, l'apôtre écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » On connaît bien ce verset, n'est-ce pas ?« Et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître celui qui est la vérité et l'évangile de vérité. Et puis, un autre verset, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, cette fois, au chapitre 2, verset 15, et là, nous lisons de Timothée, chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense fidèlement, droitement, la parole de la vérité. » Dieu nous veut comme témoins de sa vérité. Pourquoi l'évangile de vérité ? Parce qu'il y a de faux évangiles. Et l'apôtre Paul le rappelle aussi, je ne sais plus avec qui je discutais là, le dimanche dernier ou quoi, ou mardi. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, ne le croyez pas, qu'il soit anathème. L'évangile de Jésus-Christ est le seul véritable. Il y en a qui annoncent de faux évangiles comme celui qui émane de la doctrine de l'universalisme. Vous connaissez cette doctrine-là ? Elle dit quoi ? Elle dit que Dieu est tellement bon que tous les hommes seront sauvés. Même les âmes les plus mauvaises qui ne se seront pas repenties. L'universalisme. Faux évangile. Ou bien l'évangile de la prospérité. Oh, on le connaît aussi. Hein, qui veut que le chrétien soit béni matériellement, économiquement, et qui soit aussi béni au niveau de sa santé physique. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Faux évangile. Ce n'est pas l'évangile de vérité. Ce n'est pas l'évangile que Jésus et ses disciples ont annoncé. Marcher dans la vérité, c'est dispenser fidèlement l'évangile de vérité décrit dans le Nouveau Testament. Conclusion. L'apôtre Jean, que nous avons mentionné en introduction, dans sa troisième épître au chapitre 1er, verset 4, écrit « Je n'ai pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je n'ai pas de plus grande joie. Pourquoi ? Parce que la marche dans la vérité, elle honore le Seigneur. Elle glorifie le Seigneur. Alors l'apôtre Jean, il écrit à ses destinataires, « J'ai pas de plus grande joie de savoir que vous marchez dans la vérité. » La vérité s'accepte. La vérité se croit. La vérité se vit. La prière du psalmiste au chapitre 86, verset 11, est la suivante. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta vérité. C'est la prière du psalmiste. Alors la question que j'aimerais nous laisser pour terminer, c'est quel est, frères et sœurs, notre intérêt pour la vérité? Quel est notre intérêt pour la vérité ?